Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, avant d'avancer dans ce chapitre 1 de l'Évangile selon Saint Marc, petite note importante. Donc, j'ai publié sur la page d'accueil du site d'Âme Marie, la liste des retraites pour 2020. Je prêcherai toujours au même endroit, près d'un petit village qui s'appelle Lederghe, à la frontière entre le Tarn et l'Aveyron, dans un gîte que je loue, qui est magnifique, un lieu idyllique pour prêcher, un calme le plus complet, bien coupé du monde. Il y aura 6 retraites en 2020, donc je limite les retraites à 5 ou 6 personnes, pas plus. Il y aura une retraite en avril, une retraite en mai, 2 retraites en juin, une retraite en septembre, et une retraite fin septembre, début octobre. Donc n'attendez pas pour vous inscrire, pour que je puisse m'organiser. La première retraite est déjà presque pleine. Et n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un message pour que je puisse réserver une place pour vous pour ces retraites. Je vous rappelle mon numéro de téléphone, 06 32 01 65 16. Voilà, nous continuons d'avancer dans l'Évangile selon Saint Marc. Je vous rappelle donc sur le fichier, c'est le fichier qui suit les chapitres 1 à 5 de Saint Marc. Nous en sommes au verset, en train d'expliquer les versets 16 à 20. Donc je vous les relis parce que je n'ai pas terminé ces explications. Comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, qui jetaient leur filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, s'étant un peu avancé, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient assis dans une barque, raccommodant leur filet. Et aussitôt les appela, ayant laissé Zébédée leur père dans la barque, avec les mercenaires, ils le suivirent. Alors, nous en sommes sur le polycopier à la page 8. Au milieu, en haut de la page 8, troisième paragraphe de la page 8. Donc cet appel des apôtres est évidemment très important. C'est là où on voit le travail de la grâce du bon Dieu dans une âme. Lorsqu'une âme est appelée par Dieu, le bon Dieu donne des grâces très fortes, puisqu'on voit très bien les apôtres, qui sont les futurs chefs de l'Église, futurs chefs humains de l'Église, lâcher tout du jour au lendemain, à la seconde même, suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Alors que ils n'ont pas encore vu notre Seigneur. Ils en ont entendu parler parce que la plupart écoutaient déjà les prédications de Saint Jean-Baptiste, mais ils ne l'avaient pas vu souvent. Eh bien, laissant leur filet, ils le suivirent. Ensuite, c'est répété au verset 20, « Laissant Zébédée leur père dans la barque avec les mercenaires, Jacques et Jean suivirent notre Seigneur. » Lorsque le bon Dieu appelle, il faut attendre, il faut répondre, hein. Ce n'est pas simplement valable pour les vocations religieuses, c'est aussi valable pour toutes les conversions.
craignant la grâce qui passe et qui ne repasse pas. C'est ce que disent ici les pères dans le troisième paragraphe du chapitre de la page 8 du fichier. Le fichier en PDF. L'exemple des apôtres nous apprend qu'il faut répondre à la voix de Dieu qui nous appelle. Oubliez ce monde de vices qui nous entoure. Quittez et la maison paternelle et notre genre de vie primitive qui n'est que folie aux yeux de Dieu. Et ces filets du pécheur, ces toiles d'araignée dans lesquelles l'air nous poussait, suspendus dans le vide comme des moucherons exposés à une chute certaine, détestaient enfin le genre de vie où nous étions tristement embarqués. Encore une fois, ces apôtres qui sont appelés représentent chacun d'entre nous. Nous aussi, nous sommes appelés à oublier ce monde de vices qui nous entoure, à quitter d'une certaine façon la maison paternelle, chacun dans son genre, chacun selon l'appel du bon Dieu, pour quitter ces toiles d'araignée du démon qui nous maintiennent dans l'esprit, un esprit qui est incompatible avec l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, on ne peut pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ, vivre en état de grâce, si notre Seigneur Jésus-Christ, même dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale, sans justement nous couper du monde. La première condition pour se mettre sur le chemin qui mène aux cieux, c'est d'arrêter d'aimer les choses de ce monde. Nous étions embarqués, nous disent les pères, dans un triste genre de vie, exposés comme des moucherons devant une toile d'araignée dans laquelle le démon rôde comme une araignée pour dévorer tout cru ces pauvres moucherons, eh bien, c'est là où il faut comprendre que le bon Dieu nous appelle à la sainteté. Quand il dit « Suivez-moi », c'est notre Seigneur Jésus-Christ le dit de plusieurs façons, il les appela, il leur dit « Suivez-moi », c'est la même phrase, c'est la même chose. Notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse aussi à nous, même les pères de famille, même les mères de famille, même les jeunes qui m'écoutent, sur Internet, eh bien, nous sommes tous appelés par notre Seigneur Jésus-Christ à le suivre d'une façon différente selon l'état de vie dans lequel le bon Dieu nous attend. On est tous appelés à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas simplement prendre ce texte pour les seules vocations religieuses. Non, c'est aussi pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont appelés à une vocation générale. Cette vocation générale, c'est quoi ? La vocation du bon Dieu, pour chacun d'entre nous, c'est notre sanctification. Donc nous sommes tous appelés à la sanctification. Il y en a qui sont appelés de façon plus parfaite, une sanctification plus complète, je dirais un don plus total de soi-même, la vocation religieuse. Mais tous nous sommes appelés à la sanctification. Nous sommes tous appelés au ciel. Tous les hommes sont appelés au ciel. Donc, les pères insistent, dans le quatrième paragraphe de la page 8, « Adam, notre père selon la chair, le premier homme, est revêtu de la dépouille de bête morte. Mais pour nous, qui avons dépouillé le vieil homme avec ses actes et qui marchons sur les traces de l'homme nouveau, nous sommes revêtus des riches fourrures de Salomon, vêtements splendides dont l'épouse se glorifie et qui rehaussent sa beauté. » La beauté de l'âme, si vous voulez, c'est l'état de grâce. C'est la marque du baptême. Alors les pères ici donnent aussi le sens du nom des quatre premiers apôtres, donc Simon et André, Jacques et Jean. Donc il y avait d'une part, il y avait deux Simon et André qui étaient deux frères, et Jacques et Jean qui étaient aussi deux frères. Donc Simon, cela signifie en hébreu obéissant, André signifie viril, Jacques celui qui supplante, et Jean signifie la grâce. Donc les quatre vertus figurées par ces quatre noms nous transforment en l'image de Dieu. L'obéissance pour l'écouter, le courage viril pour combattre, la ruine de nos ennemis pour persévérer, la grâce pour assurer notre salut. Et donc les pères expliquent que ces quatre premiers apôtres, Simon et André, Jacques et Jean, représentent les fondations mêmes de toute la vie spirituelle, à savoir les quatre vertus cardinales. Vous savez que la vie spirituelle est basé sur quatre piliers en quelque sorte, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Et ces quatre piliers vont soutenir une espèce de croisée d'ogives, à savoir la foi, l'espérance et la charité. Donc ces sept vertus résument toute la vie spirituelle. foi, espérance, charité, d'une part, les vertus théologales centrées sur Dieu. Et ces vertus centrées sur Dieu, la foi pour croire, l'espérance pour prier, la charité pour obéir à la loi du bon Dieu, ces trois vertus théologales, donc qui ont Dieu lui-même directement pour objet, vont nous permettre de pratiquer à ce moment-là les vertus cardinales qui vont nous aider dans nos relations avec le prochain. De même, si vous voulez que le toit protège la maison qui est sous le toit, de la même façon, la croisée d'ogives est représentée par ces trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité vont protéger la maison qui est en dessous, laquelle est fondée sur les quatre vertus cardinales de prudence, de justice, de tempérance et de force. Hein? Afin que justement les puissances de notre âme soient mises au service du bon Dieu. Ainsi, la prudence, si vous voulez, va corriger l'intelligence, la justice va corriger la volonté, la tempérance va corriger le concupiscible et la force va corriger l'irascible. Pourquoi ? Parce que, n'oubliez pas que, encore une fois, tous nous naissons avec le péché originel et donc nous naissons avec des blessures. L'intelligence est blessée, la volonté est blessée, le concupiscible est blessé et l'irascible est également blessé. N'oublions pas, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, je reviens rapidement là-dessus parce que j'en ai déjà souvent parlé dans d'autres cours, donc l'intelligence était blessée par l'ignorance et donc la prudence va non pas détruire l'ignorance complètement, mais la maintenir sous contrôle. La volonté est blessée par la malice, et donc va être maintenue sous contrôle par la vertu de justice. Le concupiscible est blessé par la concupiscence et sera maintenu en ligne par la tempérance. Et enfin, l'irascible est blessé par la faiblesse et sera maintenu en ligne par la force. Et donc ces quatre noms, donc Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Jean et Saint-André, représentent justement les quatre vertus cardinales, nous disent les pères, c'est-à-dire les fondements même de l'Église catholique, comme les quatre vertus cardinales sont les vertus de fondation de l'édifice spirituel. Donc la prudence va correspondre à Saint-Pierre, la justice à Saint-André, la tempérance à Saint-Jacques et la force à Saint-Jean. Saint-Jean, c'est toute la force de la vie contemplative. Donc on peut encore dire que celui qui représente l'action est appelé le premier, ensuite celui qui figure la contemplation. Pierre signifie la vie active, Jean la vie contemplative. Saint-Pierre, en effet, fut remarquable par son ardente ferveur, par une sollicitude plus grande que celle de tous les autres, comme Saint-Jean fut le théologien par excellence. Vous voyez, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ va aller chercher des gens tout simples. Pas des gens idiots, attention, il ne faut pas prendre des apôtres, comme humainement parlant, pour des gens sans aucune valeur. Au contraire, c'est des gens de grande valeur, c'est pour ça qu'ils ont été choisis par notre Seigneur Jésus-Christ, qui de tout temps avait décidé de les choisir pour fonder son Église. Mais c'était des gens qui n'avaient pas reçu une grande culture. Ils connaissaient leur métier, ils connaissaient la foi juive, mais ils vont tout apprendre de notre Seigneur Jésus-Christ. Versets 21 et 22 du chapitre 1 de saint Marc. Ils entrèrent dans Capharnaüm, et aussitôt le jour du sabbat, entrant dans la synagogue, il les instruisait. Et ils étaient frappés de sa doctrine, car il instruisait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. C'est-à-dire que les gens qui écoutaient voyaient bien que notre Seigneur Jésus-Christ parlait du cœur. Il n'y avait pas cette espèce d'enseignement froid, impersonnel, des scribes de l'époque. Jésus-Christ les enseignait non en les flattant à la manière des pharisiens, mais en les reprenant. Il avait une force extraordinaire. Et à la fois cette douceur, cette force et ces convictions, c'est les trois choses qui sont nécessaires dans toute éducation. Tout travail d'éducation est basé sur la force, la douceur et les convictions. La force toute seule sans la douceur, c'est la cruauté. La douceur sans la force, c'est la faiblesse. Et s'il n'y a pas une augmentation des convictions après l'usage de la force et de la douceur, c'est quelque chose qui ne va pas dans l'éducation que vous donnez à vos enfants. Donc comment est-ce qu'on juge l'éducation donnée aux enfants? On juge l'éducation donnée aux enfants par le comportement des enfants une fois qu'ils sont devenus des adultes. Et je disais souvent ça quand je prêchais dans les écoles. Je disais, vous savez, comme je disais aux enfants, aux grands-enfants, aux adolescents surtout, et aux parents, je leur expliquais, c'est, on ne juge pas un enfant sur son comportement à l'école. On juge l'enfant sur son comportement pendant les vacances, quand il ne se sait pas surveiller par ses parents ou ses supérieurs. Et c'est très important pour nous. Est-ce que j'ai cette douceur? Est-ce que j'ai cette force? Est-ce que j'ai cette conviction? Si j'ai douceur, force et conviction, alors je serai capable d'enseigner à mes enfants et faire passer quelque chose. Et il faut que, lorsque mes enfants vont quitter le nid familial, il faut qu'ils aient cette douceur, cette force, cette conviction pour pouvoir transmettre ça à leurs enfants. Verset 23-28 du chapitre 1 de saint Marc. Il y avait dans la synagogue, leur synagogue, un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria, disant, Qu'y a-t-il entre nous et vous, Jésus de Nazareth? Êtes-vous venu pour nous perdre? Je sais que vous êtes le saint de Dieu. Et Jésus le menaça en disant, Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur, l'agitant avec violence et poussant un grand cri, sortit de lui. Et tous furent dans l'admiration, de sorte qu'ils se demandaient entre eux, Qu'est-ce que ceci? Quelle est cette nouvelle doctrine? Car il commande avec empire même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tout le pays de Galilée. Nous sommes à la page 9 du polycopier. Donc, on voit chez notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, cette vertu d'humilité. Et c'est cette vertu d'humilité qui ouvre les cœurs, l'humilité de Dieu. D'abord, qui se manifeste par son union avec l'humanité, Dieu qui accepte de devenir homme, l'éléphant qui accepte de devenir la taille d'une petite souris. L'humilité de Dieu, page 9 dans le polycopier, l'humilité de Dieu, du Dieu qui est apparu sous la forme de l'esclave et si puissante contre l'orgueil des démons qu'ils sont forcés de le reconnaître et le confesser publiquement devant le Seigneur revêtu de l'infirmité de notre chair. Donc, arriver à voir derrière l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, la divinité qui se cache, donc notre Seigneur Jésus-Christ se revêt de l'infirmité de notre chair, se cache sa divinité derrière notre humanité, mais il est toujours Dieu, attention. Ce n'est pas parce que notre Seigneur Jésus-Christ semble aujourd'hui complètement endormi dans la barque de Pierre que ça veut dire qu'il s'occupe plus de nous, hein. Regardez les apôtres qui paniquent complètement parce que notre Seigneur Jésus-Christ est endormi au milieu de la barque et le vent se lève, les vagues se creusent, la tempête arrive, l'eau passe par-dessus bord et il réveille notre Seigneur. Seigneur, nous périssons. Mais c'est un manque de foi. Notre Seigneur est dans la barque et actuellement c'est la même chose. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que fait notre Seigneur? Qu'est-ce que fait le bon Dieu? Pourquoi laisse-t-il Bergoglio et ses petits amis tout détruire de l'intérieur. Notre Seigneur Jésus-Christ est là. Il dort, mais il est là. Pourquoi dort-il? Pourquoi est-ce qu'il ne se lève pas pour chasser tous ces bandits? Mon Dieu, c'est ce qu'il fait. Peut-être qu'il a prévu de nous laisser boire le calice jusqu'à la lie, justement, pour nous renforcer dans notre foi. Alors, cette ville de Capharnaüm dans laquelle entre notre Seigneur Jésus-Christ et ses disciples, cette ville de Capharnaüm, c'est ce que Jésus appelle, notre Seigneur Jésus-Christ appelle sa ville. Donc, Capharnaüm, dit saint Jérôme, dans le sens mystique, signifie la ville de la consolation. Le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour du repos. Donc, cet homme possédait d'un esprit immonde, d'un esprit impur, c'est le genre humain en qui l'impureté régnait depuis Adam jusqu'à Moïse, car les hommes ont péché sans la loi, et ils périront sans la loi. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va chasser cet esprit impur de l'âme, de se posséder, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur, l'agitant avec violence et poussant un grand cri, sortit de lui. Notre Seigneur Jésus-Christ chasse ce démon pour bien montrer qu'il est le maître des démons. Qu'il est maître des démons dans le sens que le démon n'a n'a qu'un pouvoir limité devant Dieu. Dieu est maître de sa création. Et les démons, étant des anges, ont été créés par Dieu. Ils n'ont pas été créés par Dieu comme démons, mais ils ont été créés par Dieu comme hommes. Et rien n'arrivant sans la permission du bon Dieu, la prévarication d'un tiers des anges a été permise par Dieu. Il aurait pu empêcher tout ça. Il n'a pas voulu. Il a voulu que les hommes viennent prendre la place, laisser au libre les places laissées libres au ciel par la chute des démons. Mais vous voyez, on voit très bien ici que notre Seigneur Jésus-Christ est maître. C'est le grand patron, même des démons. Donc les démons ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que saint Paul nous promet que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Cet esprit impur, donc, qui connaissait le sein de Dieu, reçoit l'ordre de se taire. Parce qu'il est des hommes qui, connaissant Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu, mais ont mis servir et adorer la créature plutôt que le Créateur. Pour ça qu'il étonne tellement ceux qui assistent à cette scène. Quelle est cette nouvelle doctrine? Il commande avec empire même aux esprits impurs et lui obéissent. Et on voit bien que notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est très important pour nous, ne discute pas avec le démon, ne dialogue pas avec lui. Tais-toi, sors de cet homme. On ne joue pas avec le démon. Quand on joue avec le démon, on se fait avoir. On donne des ordres. Donc ici, les pères de l'Église, c'est en haut de la page 9, quatrième paragraphe. Les saints, les pères de l'Église vont analyser les raisons pour lesquelles Jésus donne cet homme. Cet ordre de se taire, tais-toi. Et il donne, j'ai noté ici six raisons, il y en a d'autres, mais enfin j'ai noté les principales chez les pères de l'Église. Première raison, il ne serait pas normal que le Christ soit commandé par le démon. C'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui donne l'ordre. Deuxièmement, je viens de vous le dire, il ne veut pas de dialogue avec le démon, il ne veut pas être son ami. Il donne l'impression qu'il l'expulse avec l'aide de Belzébuth. Il ne discute pas dehors. Sors, tais-toi. Il nous enseigne également de n'avoir aucun contact avec lui, car il est son ennemi juré, qui ne cherche qu'à nous nuire et nous détruire, même quand il promet ou nous apporte une aide matérielle. N'oublions pas que le démon est le singe de Dieu. Et n'oubliez pas aussi, mes bien chers frères qui m'écoutez, que le démon est plus intelligent que vous et moi, parce qu'il est toujours ange. Un ange des ténèbres, mais un ange quand même. Donc il a toujours une intelligence qui comprend les choses par intuition, c'est-à-dire 10 millions de fois plus rapidement que nos pauvres intelligences à nous, hommes, qui ne comprennent les choses que par abstraction. Nous, on passe par nos corps pour comprendre. Le démon n'a pas de corps, c'est un pur esprit. Donc il va directement à la racine des choses. Autre raison donnée par les pères, Dieu donne cet ordre de se taire. Pour nous montrer que nous devons résister aux louanges qui conduisent à la vaine gloire. Donc, il ne veut pas que le démon, en tant que démon, si vous voulez, participe à la gloire de Dieu directement. C'est pour ça qu'il dit, le démon va dire, je sais qui vous êtes, le saint de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, un peu étonnamment, va dire, tais-toi. Parce qu'il ne veut pas que la moindre vérité ne sorte de la bouche des démons. Quand le démon dit, vous êtes le saint de Dieu, le démon dit vrai. C'est exact que le démon est le saint de Dieu. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ dit bien, tais-toi, parce qu'il sait très bien que si des vérités commencent à sortir de la bouche du démon, eh bien, les gens qui écoutent vont plus rien comprendre. Ils vont se demander, mais alors, certaines vérités peuvent sortir de la bouche du démon? Ben oui. Rappelez-vous ce qu'on appelle les tentations sous apparence de bien. Le démon est capable d'utiliser des choses bonnes pour obtenir quelque chose de mauvais. Le démon, je vous l'ai souvent expliqué, j'explique bien ça dans les règles de discernement des esprits. Quand je commente les règles de discernement des esprits dans les exercices Saint-Ignace, en début de retraite, c'est que le démon utilise les tentations sous apparence de bien. Il va utiliser des choses qui semblent bonnes pour obtenir quelque chose de mauvais. Le bon Dieu est capable de vous pousser à faire pénitence, de vous pousser à prier. Mais vous poussez à prier quand il ne faut pas, ou vous poussez à prier de façon déséquilibrée. Il va vous pousser à faire trop pénitence et ainsi vous n'avez plus la force nécessaire pour faire pratiquer votre devoir d'État. J'ai vu des mamans qui prient trop, par exemple, qui ne s'occupent plus de leurs enfants. Ce n'est pas normal. Bien sûr, il faut une vie de prière. Mais il faut aussi que cette vie de prière nous aide à suivre la volonté du bon Dieu et remplir notre devoir d'État. C'est ce que disent ici les pères. Il ne faut jamais croire le démon, même quand ce qu'il dit est vrai, car son intention est toujours de nous tromper, car il aime le faux et cherche à nous nuire. C'est une phrase très importante. Vous voyez ce que disent les pères? Il ne faut jamais croire le démon, même quand il dit vrai. Ça veut dire que même quand il dit vrai, il faut comprendre qu'il dit quelque chose de vrai pour nous troubler, pour mettre le doute dans notre âme. Les démons utilisent la vérité comme un leurre, cachant leurs mensonges sous une apparence de vrai, mélangeant habilement le vrai et le faux. Saint Paul ainsi expulsa de la jeune esclave l'esprit Python qui le louangeait. Et je me rappelle quand j'étais au séminaire, Monseigneur Lefebvre nous parlait de ces choses-là, avec des fausses apparitions. Il y en a pléthore, il y en a beaucoup de fausses apparitions, on en avait déjà beaucoup à l'époque. Eh bien, il y avait des fausses apparitions, des apparitions privées, jamais reconnues par l'Église, qui encensaient Monseigneur Lefebvre, qui prétendaient que Monseigneur Lefebvre était un homme de Dieu. Je suis persuadé que Monseigneur Lefebvre était un homme de Dieu, même s'il n'a pas tout compris. Ça ne veut pas dire pour ça que l'apparition qui prétendait que notre Monseigneur Lefebvre était un homme de Dieu était une bonne apparition. Pourquoi? Parce que le démon sert de tout. Et pour trouver les hommes, il est capable d'utiliser des choses qui sont bonnes. Pour obtenir quelques diamants, il est capable de donner quelques saphirs. Vous voyez? Donc attention à ne pas nous faire troubler par le démon. Vous savez, parfois c'est difficile de s'y retrouver. Je connais des gens qui ont été convertis dans des lieux de fausses apparitions. Je connais une famille qui a été convertie en maître de gorgie. Pourtant, maître de gorgie est une fausse apparition. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. À maître de gorgie, ces gens qui pratiquaient plus du tout ont retrouvé, par exemple, l'usage du chapelet. Ils sont mis à prier le chapelet. Et ils ont reçu les grâces pour se convertir. Ils se sont convertis. Puis une fois convertis, ils ont compris que maître de gorgie était une fausse apparition. Dernière raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ donne au démon un ordre, tais-toi, nous disent les pères, c'est parce que le démon révélait déjà que le Christ était le Messie, mais trop tôt. Et cela aurait pu empêcher le Christ de préparer les âmes en tournant le peuple contre lui. Car un secret très grave ne doit être révélé que graduellement, en persuadant le peuple de sa véracité par de nombreux miracles au risque de le voir le refuser. C'est pourquoi le Christ interdit aux apôtres de révéler qu'il était le Christ. Chaque chose en son temps. Notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas immédiatement, au début de sa prédication publique, ne va pas immédiatement commencer à parler de l'incarnation, de la rédemption, de la Sainte Trinité. Il prépare d'abord les âmes. Vous voyez? Donc c'est ce chapitre, ce paragraphe-là, les raisons pour lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ ordonne aux démons de se taire sont importantes. Je vous répète les raisons, parce que il ne serait pas normal que le Christ soit commandé par le démon. Dieu ne veut pas de dialogue avec le démon. Il nous enseigne à n'avoir aucun contact avec lui. Il fait cela aussi pour résister aux louanges qui conduisent à la vaine gloire, pour nous montrer qu'il ne faut jamais le croire, même quand ce qu'il dit est vrai, parce que son intention est toujours de nous tromper. Et dernière raison, pour que la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ ne soit pas révélée trop tôt. Il faut que les âmes soient prêtes à recevoir cette grande vérité. Autre symbole, cause, raison symbolique donnée par Saint Bède le Vénérable, au milieu de la page 9 sur le polycopier. Le démon qui a trompé Ève avec sa langue est puni par sa langue. Il ne peut parler. Donc, notre Seigneur lui dit bien, tais-toi. Ça veut dire que Ève a été trompée par la langue du démon, mais à cause des quatre mensonges. Le démon a parlé. Adam et Ève, rappelez-vous ce qu'il a dit, ce qu'il s'est fait passer pour un serpent, et qu'il a parlé à Ève. Vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux et vous déciderez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu vous a dit que si vous mangez de l'arbre, du fruit de l'arbre interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que vous mourriez, que vous mourrez, eh bien c'est faux. Au contraire, vous deviendrez comme des dieux et vous pourrez décider par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Vous pourrez pratiquer la liberté de conscience. Et donc le démon qui a trompé Ève avec sa langue est puni par sa langue et ne peut parler. Alors d'autres raisons données par les pères, quand il dit pas simplement tais-toi, mais il dit aussi sors de cet homme, tais-toi et sors. Deux choses. Donc on a déjà expliqué les raisons pour lesquelles il donnait l'ordre, intimait l'ordre de se taire. Maintenant les raisons pour lesquelles Il intime l'ordre de sortir. Le Christ donne l'ordre au démon de sortir de l'âme qui était sous son emprise, pour qu'il soit clair que cet homme est vraiment possédé. Était vraiment possédé. Pour que la malice et la colère du démon soient rendues apparentes. Et pour montrer que le démon n'est pas sorti de par sa volonté, mais parce qu'il en avait reçu l'ordre du Christ. Dieu est le grand patron. Et vous faites attention, ne vous laissez jamais, jamais approcher par le démon. Hein. C'était le cardinal Pi qui disait, lorsque tu vas manger, tu es invité par manger, tu vas manger avec le démon, il vaut mieux pour toi prendre une longue cuillère. C'est bien ce que ça veut dire. On ne dialogue pas avec le démon, on ne discute pas avec le démon. Combien de fois j'ai vu ça, des gens qui se font avoir parce que, pas forcément par mauvaise volonté, ils jouent avec le feu. Vous avez deux témoins de Jéhovah qui viennent frapper à votre porte. Oh, nous venons un petit peu vous parler. Dès que vous avez repéré que ce sont des témoins de Jéhovah, il faut refuser le dialogue. On ne dialogue pas avec ces gens-là. C'est le démon qui parle. Les démons qui parlent, le but de ces témoins de Jéhovah qui viennent frapper à votre porte, c'est de mettre le trouble dans votre âme. Une fois que le trouble est mis, à ce moment-là, ils peuvent mettre toute leur salade, toute leur bêtise. Donc on ne discute pas avec les démons. On ne discute pas avec les témoins de Jéhovah. Mais moi, quand je suis abordé, ça m'arrive régulièrement, d'être abordé dans une ville par deux témoins de Jéhovah, ils voient une soutane, ils viennent, ils n'ont pas peur. Ils viennent. Je refuse net de discuter avec eux. Je leur dis toujours, commençons par dire ensemble, je vous salue Marie. Après on verra. Ça suffit pour qu'ils partent. Ils partent en courant parce que vous ne ferez jamais dire un jour vous salue Marie, un témoin de Jéhovah. Verset 19 à 31, en bas de la page 9. Pardon, excusez-moi, verset 29 à 31 du chapitre 1 de Saint-Marc. Aussitôt sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et André avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt ils lui parlèrent d'elle. Et s'approchant, il la souleva, la prenant par la main, et à l'instant, la fièvre la quitta et le servit. Ici, on voit très bien, en parlant de la belle-mère de Simon, que Saint-Pierre était marié. Tous les apôtres, en fait, semble-t-il, étaient mariés, sauf Saint-Jean. Bon, c'est un peu un mystère. C'est des choses qui sont mystérieuses, qu'on a du mal à comprendre. Notre Seigneur Jésus-Christ, en appelant tous ses apôtres, qui étaient tous mariés, sauf Saint-Jean encore une fois, il leur a demandé de quitter leur famille. Bon, il y a parfois des choses qui sont comme ça. Ils sont parfois difficiles à comprendre, mais il faut voir les choses avec des yeux divins, pas avec des yeux humains. Comme par exemple Saint Nicolas de Flux, un des patrons de la Suisse. Bon, lui, il avait des enfants, une famille nombreuse déjà, si mes souvenirs sont exacts. Eh bien, il comprend que le bon Dieu lui demande de quitter sa famille. Il quitte sa famille pour aller s'installer comme ermite. Il va s'installer dans la vallée à côté, mais de la vallée de l'endroit où il était, à Fueli, en Suisse, l'endroit où il voyait la maison familiale. Il voyait le toit où habitaient ses enfants et son épouse. Bon, ce sont des choses difficiles à comprendre, mais le bon Dieu est maître de ces choses-là. Et le bon Dieu, dans certains cas, peut demander des sacrifices énormes comme celui-là. Nous apprenons ici que celui qui se rend, en bas de la page 9, celui qui se rend le serviteur des saints pour l'amour de Jésus-Christ peut espérer obtenir de Dieu sa guérison. S'il est vrai que cet homme délivré du démon figure l'âme délivrée des pensées mauvaises, cette femme délivrée de la fièvre, la parole du Seigneur nous représente sous une image très juste la chair guérie par les préceptes de la continence, des brûlantes ardeurs de la concupiscence. Oui. Donc cette belle-mère de Simon qui est couchée avec la fièvre, donc ça représente, nous disent les pères, les mauvaises pensées. Plus exactement ici, les préceptes, les brûlures de la concupiscence. Pourquoi ? Parce que la fièvre donne dans une chaleur, une âme qui est, un corps qui est fiévreux, c'est un corps qui est chaud. C'est pour ça que les mamans mettent tout de suite la main sur l'enfant, la tête de l'enfant pour vérifier s'il n'a pas de fièvre. Et donc la fièvre, cette chaleur physique de la fièvre, représente les brûlantes ardeurs de la concupiscence. Donc concupiscence, c'est surtout concupiscence de la chair. La fièvre, dit Saint Jérôme, signifie l'intempérance dont nous sommes guéris. Nous qui ne sommes pas les enfants de la synagogue, mais de l'Église, à l'aide d'une discipline salutaire. Et par l'élévation d'un désir, plein d'un saint empressement, servir ensuite celui à qui nous devons notre guérison. Donc la belle-mère de Simon est malade, donc elle est couchée. L'apôtre Saint-Pierre, sans doute surtout, va parler de son épouse qui est malade à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il la souleva, la prend par la main, et à l'instant même, la fièvre la quitta et elle l'est servie. C'est très important de voir ça. Première chose que fait une âme qui est guérie par notre Seigneur Jésus-Christ, se mettre au service de Dieu. Cette fièvre, donc, au haut de la page 10, représente celui qui s'irrite et en vient sous l'impulsion de sa colère et des violences que rien n'arrête. À des violences, sous l'impulsion de sa colère, il tombe dans des violences que rien n'arrête. Mais la raison retient son bras. Il se lève et devient ainsi le serviteur de la raison. Donc, notre Seigneur qui prend par la main la personne qui est malade représente notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aide par sa grâce à dominer nos passions. Les passions doivent être dominées par la volonté par l'intelligence et l'intelligence par le bon Dieu. Alors, très souvent, nous avons la fièvre. C'est la fièvre. Qu'est-ce que représente cette fièvre? Cette fièvre ne représente pas simplement la concupiscence, mais représente de façon générale le péché, tous les péchés. Donc, lorsque nous sommes en état de péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se faire toucher par notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut permettre que notre Seigneur Jésus-Christ vienne toucher notre âme malade pour la guérir. C'est pour ça que les rubriques disent que lorsqu'un prêtre donne l'absolution, au moment où il donne l'absolution, il doit lever la main. Lever la main pour prononcer les paroles de l'absolution. Je t'absolve tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce prêtre qui lève la main pour donner l'absolution, représente notre Seigneur Jésus-Christ qui touche littéralement les malades par la main, qui la prend par la main, et immédiatement la fièvre la quitta et elle les servait. Notre Seigneur va prendre le malade par la main, va toucher le malade, immédiatement le péché le quitte, la fièvre le quitte et elle les servait. Une fois qu'on a abandonné le péché, il faut se mettre au service du bon Dieu, sinon notre conversion ne sert à rien. Voyons les versets 32 à 34 du chapitre 1 de Saint-Marc. Le soir venu, lorsque le soleil fut couché, on lui amena tous les malades et les possédés du démon. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il en guérit beaucoup, qui étaient tourmentés de diverses maladies, et il chassait de nombreux démons. Il ne leur permettait pas de dire qu'il le connaissait. Voyez, on retrouve la même idée. Sors, mais tais-toi. Et encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ il répète la même chose. Au lieu de dire, en menaçant, tais-toi et sors de cet homme, ici, il est précisé au verset 34 que Jésus ne permettait pas aux démons de dire qu'il le connaissait. Parce que les âmes ne sont pas prêtes. Donc le rôle du prêtre, si vous voyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est souvent un prêtre. Le rôle du prêtre, ce n'est pas simplement de donner les sacrements, mais donner les sacrements à des gens qui sont bien disposés à les recevoir. Il y a des textes magnifiques du curé du Ménil-Saint-Loup, le père Manuel, sur justement ces choses-là. Le prêtre n'est pas un distributeur automatique de sacrements. Attention, il faut distribuer les sacrements à des gens qui sont disposés à les recevoir, sinon ça ne sert à rien. J'ai connu un prêtre comme ça, c'est épouvantable, qui confessait, mais pour pouvoir confesser plus de monde, il ne donnait jamais aucun conseil. Il écoutait la confession, puis il disait simplement, pour votre pénitence, vous direz trois jours, c'est le mari, donnez l'absolution tout de suite. Eh bien, il a malheureusement été l'instrument de beaucoup, beaucoup de mauvaises confessions parce que justement, il n'interrogeait jamais. Vous savez, c'est vite fait pour quelqu'un qui est un peu encore sous l'emprise du démon de tromper le prêtre. Je donne un exemple. Imaginez une personne qui vient se confesser. Bon, c'est déjà un acte de bonne volonté, c'est un début. Il se confesse au confessionnal, c'est un exemple que je donne. Au confessionnal, c'est dit, j'ai commis un péché d'impureté. Si le prêtre dit, pour le pénitent, dites trois jours au seul mari, je donne l'absolution, il n'interroge pas, il va être responsable dans bien des cas de catastrophe. Parce que souvent, la personne, le jeune qui va dire, c'est un exemple que je donne, le jeune qui va dire, j'ai commis un péché d'impureté, ne précise pas les choses qu'il faut demander, attendez, seul, avec d'autres, en pensée, en parole, en action. Et Quand on sent que le jeune ne veut pas répondre, c'est qu'il y a quelque chose qu'il cache. Donc il faut tourner un petit peu là, le fer dans la plaie là. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On s'en rend compte comme prêtre. Le jeune va dire, ben, en action, seul ou avec d'autres? Ben, avec quelqu'un. Et finalement, le prêtre doit poser la question, est-ce que vous vivez avec quelqu'un en concubinage? Ben oui, mon père, je vis en concubinage. Vous êtes accusé d'un péché d'impureté avec cette personne? Ben oui, mon père. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que tu vivais en concubinage? Et vous allez rester dans ce concubinage? Ah ben oui. Mais attendez, si vous comptez rester dans le concubinage et continuer de pécher avec cette personne, avec cette femme, alors votre confession ne vaut rien. Parce que vous n'avez pas le ferme propos d'amendement. Pour qu'une confession soit valide, ça ne suffit pas de dire ses péchés. Il faut encore avoir une douleur de ses péchés qui doit se traduire par le ferme propos de ne pas recommencer. Pour ne pas recommencer, il faudra peut-être quitter l'occasion prochaine volontaire de péchés graves. Sinon, votre confession ne vaut rien. Vous voyez, et j'ai vu des tas de cas comme ça où les prêtres se font rouler parce que justement, on ne pose pas de questions. D'où l'importance des retraites. C'est pour ça qu'on parle tellement des retraites. Les retraites sont très importantes parce qu'on donne 2 jours et demi pour la préparation des confessions générales. Confession générale, c'est une confession pour laquelle on reprend une grande partie de notre vie passée. Une confession privée, bien sûr, mais générale dans le sens qu'on prend une grande partie de la vie. On reprend une grande partie de la vie, parfois la vie tout entière, parfois une partie de la vie depuis la dernière retraite, ça dépend des cas. Mais ces confessions générales permettent justement, comme il y a des préparations pendant 2 jours et demi avec toutes ces méditations de première partie des exercices Saint-Ignace, ces confessions générales vont permettre souvent à ces péchés anciens de ressortir. Oui, monsieur l'abbé, pendant des années, je me suis confessé avant d'être marié et j'ai toujours caché au prêtre que je vivais en concubinage avec cette femme avec laquelle je péchais. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que toutes ces confessions anciennes étaient invalides, il faut les accuser maintenant pour retrouver la paix de l'âme. Parce que confession invalide, confession sacrilège du passé, ça veut dire communion sacrilège dans bien des cas. Et plusieurs fois, j'ai des cas comme ça de gens qui ont vécu dans le péché pendant des années, qui ont fait des années de confession sacrilège, de communion sacrilège, et finalement, Dieu merci, avec les retraites, ça finit par sortir de haut gratias. D'où l'importance des retraites. Alors voyons un petit peu ici ce que disent les pères de l'Église sur ces versets 32 à 34. Donc notre Seigneur guérit, disent les pères, un grand nombre de ceux qui lui furent présentés, c'est-à-dire ceux qui avaient la foi. Le démon l'avait regardé d'abord comme un homme épuisé qu'il était par un jeûne de 40 jours, sans pouvoir néanmoins par ses tentations s'assurer qu'il était le Fils de Dieu. Maintenant, à la vue des prodiges de sa puissance, y compris plutôt, il soupçonna qu'il était le Fils de Dieu. Les pères disent qu'il les soupçonna parce qu'il n'a jamais été certain de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le démon avait compris de façon parfaite que notre Seigneur Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu et qu'il allait prendre, qu'il avait pris notre humanité pour pouvoir mourir sur la croix et par cette mort sur la croix terminer complètement le pouvoir du démon et rejeter le démon en enfer et sauver les âmes, dans ce cas-là, si le démon avait compris ça, il n'aurait jamais poussé les membres du peuple juif au crime de déicide et d'amener notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Parce que ça aurait été un espèce de suicide pour le démon. Et s'il l'a fait, s'il a poussé les Juifs à crucifier notre Seigneur Jésus-Christ, c'est précisément parce qu'il n'avait pas compris que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. C'est pour ça que les pères disent, il comprit, ou plutôt il soupçonna qu'il était le Fils de Dieu, il n'en est pas sûr. Si donc il persuada les Juifs de le crucifier, ce n'est point qu'il pensa qu'il n'était pas le Fils de Dieu, mais parce qu'il ne prédit point que la mort de Jésus serait sa propre condamnation. Donc, le démon n'avait pas compris que notre Seigneur Jésus-Christ était le Fils de Dieu, et donc n'avait pas prévu que la mort de Jésus serait sa propre condamnation. Encore une fois, s'il l'avait su auparavant, eh bien, il n'aurait certainement pas fait ce qu'il a fait. Le texte sacré nous parle du soir venu. Et Saint Bède le Vénérable nous dit que dans le sens mystique, le coucher du soleil, le soir qui vient, c'est le coucher du soleil, ça signifie la passion et la mort de celui qui a dit « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Donc le soir venu, c'est le soleil qui se couche, c'est la lumière du monde qui se cache. Elle ne s'éteint pas parce qu'elle brille toujours, mais elle se cache. Et toute la ville était rassemblée devant la porte, dit le verset 33. Saint Jérôme nous dit que cette porte signifie la pénitence, qui avec la foi opère la guérison de nos diverses infirmités. Car les vices qui frappent de langueur la cité du monde sont variés et nombreux. Donc la pénitence, la ville qui se rassemble à la porte, représente ceux qui font pénitence et qui par la pénitence vont ouvrir leur cœur aux grâces du bon Dieu. N'oublions pas, je l'ai déjà expliqué très souvent, que de nombreuses grâces du bon Dieu sont des grâces qui sont conditionnelles. Elles sont conditionnées par l'ouverture de notre âme. Certes, on ne peut pas ouvrir notre âme sans des grâces particulières actuelles du bon Dieu, mais c'est ça le mystère, c'est que les grâces même les plus puissantes du bon Dieu ne travaillent pas sans la coopération de celui qui les reçoit. La grâce est toute puissante, mais tout en étant toute puissante, la grâce respecte le libre arbitre de la personne qui reçoit cette grâce. C'est un grand mystère. Avançons. Voir si je peux terminer ce chapitre 1er de Saint Marc. Chapitre 1er de Saint Marc, versets 35 à 39, page 10. S'étant levé de très grand matin, notre Seigneur sortit et alla dans un lieu désert, et là il priait. Et Simon le suivit, ainsi que ceux qui étaient avec lui, donc Saint André, Saint Jacques et Saint Jean. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tout le monde vous cherche. Et il leur dit, allons dans les villages voisins et dans les villes, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. Il prêcha dans leur synagogue et dans toute la Galilée, et y chassait les démons. Alors, voilà le commentaire des pères sur la première phrase. S'étant levé de grand matin, il sortit s'en alla dans le désert. Donc, les pères nous expliquent que le Seigneur nous enseigne ainsi ne rien faire par ostentation, ne point divulguer les bonnes œuvres que nous pouvons faire. Que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche, dit notre Seigneur Jésus-Christ. L'orgueil détruit tout. Il y a des saints qui ont fait des grands miracles et qui sont tombés dans le péché à cause de leur orgueil. Et qui ont dû après regagner tout le terrain perdu, justement à cause de leur orgueil. L'humilité est la grande vertu de celui qui veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Sans humilité, pas de foi. Sans humilité, sans charité. Donc l'humilité introduit littéralement l'âme dans la vertu de charité. Saint Jean Chrysostome nous dit que notre Seigneur manifeste ainsi tout à la fois le mystère de son anéantissement, c'est-à-dire son incarnation, en fait, qu'il cache sa divinité derrière son humanité, qu'il accepte de devenir homme. Donc il manifeste aussi le souverain domaine de sa divinité en déclarant qu'il est venu spontanément dans le monde. D'après Saint Luc, notre Seigneur dit « C'est pour cela que j'ai été envoyé ». Il exprime ainsi le décret providentiel et la volonté miséricordieuse de Dieu sur l'incarnation de son fils. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit « Allons dans les villages voisins, dans les villes, afin que j'y prêche aussi ». Parce que notre Seigneur Jésus-Christ veut amener le salut à tous les hommes, pas simplement à certains d'entre eux. La volonté du bon Dieu, c'est le salut de tous les hommes. Rappelez-vous la très belle oraison qu'on a dit pour le dimanche des missions, pour la propagation de la foi, je vous la relis. Ô Dieu, qui voulait que tous les hommes parviennent au salut et à la connaissance de la vérité, daignez envoyer des ouvriers dans votre moisson et leur donner d'annoncer avec confiance votre parole, afin que votre doctrine se répande et soit glorifiée, que toutes les nations puissent vous reconnaître, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit. Vous voyez donc, la raison dit bien, ô Dieu qui voulait que tous les hommes parviennent au salut et à la connaissance de la vérité. La volonté du bon Dieu, c'est que tous les hommes se sauvent. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il est mort pour tous les hommes, mais notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il veuille que tous les hommes se sauvent, ne veut pas que l'homme se sauve sans Dieu. Il ne veut pas que l'homme se sauve sans une participation à ses grâces. Donc notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix pour tous les hommes. Ce n'est pas dire que tous les hommes sont sauvés, comme, Comme dit Bergoglio. Non, pas du tout. Pour se sauver, il faut accepter les grâces de la passion. Et donc commencer à s'humilier, et par cette vertu d'humilité, commencer par vivre un état de grâce. Si je ne vis pas un état de grâce, tout ce que je fais ne vaut rien. Alors avançons. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, en bas de la page 10, cache sa, encore une fois, sa, d'une certaine façon, sa divinité. C'est pour ça qu'il ne veut pas que le démon divulgue trop tôt cette divinité. Donc, Saint Bède le Vénérable, en bas de la page 10, explique « Si par le coucher du soleil, on entend, dans le sens mystique, l'amour du Sauveur, l'amour de la lumière, pourquoi ne pas voir sa résurrection dans le retour du matin ? Après que sa lumière eut brillé dans le monde, sur le monde, il s'en alla dans le désert des nations idolâtres, et là, il priait dans la personne de ses fidèles, parce qu'il excitait leur cœur par la grâce du Saint-Esprit à la vertu de prière. » Donc, verset 32, on voit « Le soir venu, donc notre Seigneur Jésus-Christ cache sa divinité, s'est enlevé de très grand matin, verset 35, là c'est au contraire, le soleil qui se lève, le soleil représente notre Seigneur, il est la lumière du monde, il est celle de la terre, il est la porte qui ouvre le ciel, donc s'est enlevé de grand matin, de nouveau il fait apparaître sa divinité. » Donc apprenons, confusion des pères, en bas de la page 10, apprenons ici du Christ, donc à donner dès le matin notre cœur à la prière, de nous lever dès l'aurore pour avoir du temps pour la méditation et donner à Dieu les premiers fruits du jour. Si le lever du jour est un ami des muses, il est un plus grand ami de Dieu et des anges. Donc, vous voyez, la première chose qu'un catholique doit faire en se levant, c'est offrir son âme au bon Dieu, offrir son esprit au bon Dieu. Donc, dès que vous vous levez, avant de vous habiller au pied du lit, tout de suite, au moins faites votre offrande de la journée, dit vainqueur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie mes prières, mes œuvres, mes souffrances cette journée, mes joies de cette journée, à réparation de mes offenses et à toutes les intentions pour lesquelles vous immolez continuellement sur l'autel. Je vous les offre surtout pour telle intention. Et vous dites à notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père. Au moins faites ça. Après, vous allez vous occuper de vos affaires, les mamans vont devoir peut-être réveiller les enfants, le papa va se préparer pour partir au travail, je ne sais pas, mais il faut commencer par ça. Après, si vous avez le temps de faire une prière du matin plus longue, faites-la. Mais commencez toujours par l'offrande de la journée au bon Dieu. Page 11, versets 40 à 45. Or, l'impureux vint à lui, le suppliant. Et fléchissant le genou, il lui dit, « Si vous le voulez, vous pouvez me guérir. » Et Jésus, ayant pitié de lui, étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, soyez guéri. » Et lorsqu'il lui dit cette parole, la lèpre le quitta aussitôt et il fut guéri. Et Jésus le menaça et le renvoya aussitôt, en lui disant, « Gardez-vous de ne rien dire à personne, mais allez, montrez-vous aux princes et prêtres et offrez pour votre guérison ce que Moïse a ordonné, afin que cela leur serve de témoignage. » Cet homme étant parti, se mit à raconter, à publier la chose, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer directement dans une ville, mais il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Et on retrouve là exactement la même chose, le même ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir guéri un lépreux. Gardez-vous de ne rien dire à personne. Ce n'est pas encore le temps pour notre Seigneur Jésus-Christ de faire luire la lumière de sa divinité devant tout le monde. Il fait des miracles, mais en même temps, il prépare lentement les âmes à recevoir tout l'enseignement que notre Seigneur Jésus-Christ veut leur donner. Il ne donne pas tout d'un coup parce qu'il sait que ça serait trop pour ses enfants. Au début, quand on nourrit un bébé, on nourrit avec du lait. On va lui donner la nourriture solide qu'au bout d'un certain temps, une fois que son estomac a préparé à recevoir autre chose. Un bébé ne peut boire que du lait, donc il a toutes ses enzymes dans son corps, il est bourré de cette enzyme qui permet la digestion du lait, Et au bout d'un certain temps, lorsqu'il se met à la nourriture solide, ces enzymes qui ont été mises par le bon Dieu dans le corps d'un bébé pour qu'il puisse digérer le lait, et bien ces enzymes vont diminuer en nombre et vont presque disparaître au bout d'un certain temps. Alors voyons un petit peu donc le commentaire des pères sur ce sujet. Saint Bède le Vénérable dit, après que la langue insidieuse des démons eût été réduite au silence et que la femme qui avait été séduite la première fut guérie de sa fièvre, en troisième lieu, l'homme qui était perdu, qui s'était perdu en écoutant les paroles pernicieuses de son épouse, est guéri de la lèpre de son égarement. Et donc, tout Seigneur, ici les pères font allusion donc aux miracles qui ont juste précédé. Donc, l'homme qui est chassé d'un esprit impur, dont cette femme qui est guérie également. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va maintenant guérir aussi un lépreux. On peut bien montrer qu'il s'adresse à tout le monde. Donc, il ne s'occupe pas simplement du salut de ceux qui viennent d'Ève, mais aussi de ceux qui viennent d'Adam. Ève est la première qui a péché dans la création de l'homme. Mais n'oublions pas que même si Ève est la première qui a péché, c'est par le péché d'Adam que le péché originel est rentré dans l'humanité, pas par le péché d'Ève. Parce que chef de famille, c'était Adam, déjà à l'époque. Adam étant le chef de famille, tant qu'il n'avait pas commis lui-même le péché, eh bien, il était pas responsable. Le péché n'aurait pas été transmis à toute l'humanité, donc le péché d'Adam est plus grave que le péché d'Ève. Donc Saint Jérôme dit que dans le sens mystique, notre lèpre, c'est le péché du premier homme. Péché qui a commencé par envahir la tête quand Adam a désiré les royaumes de ce monde. Car la racine de tous les maux, c'est la cupidité. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc le péché qui a commencé à envahir la tête, c'est les péchés qui rentrent dans l'intelligence. Qu'est-ce qu'avait dit le démon ? Si vous mangez du fruit défendu, vous deviendrez comme Dieu. Vous deviendrez comme des dieux. Donc c'est pour ça qu'on dit que le péché d'Adam, c'est un péché d'orgueil. Il s'est pris comme Dieu, il a suivi le conseil du démon. Si vous mangez du fruit, vous deviendrez comme des dieux, et donc vous déciderez par vous-même, liberté de conscience, ce qui est bien, ce qui est mal. Donc l'homme, dit Saint Jérôme avec raison, le péché a envahi la tête, l'intelligence d'Adam et Ève, parce que la racine de tous les maux, c'est la cupidité. Cette cupidité est fruit de l'orgueil. Et là, chez Adam, c'est même encore plus grave, que l'homme, Adam, s'est pris pour Dieu pour pouvoir décider ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu avait décidé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est mauvais pour vous. Eh bien, Adam, trompé par le démon, décide différemment, n'est pas d'accord avec le bon Dieu et en fait qu'à sa tête. Les conséquences sont là. Le péché originel va rentrer dans toute l'humanité. Saint Bède le Vénérable, le sévère ayant étendu la main, c'est-à-dire le Verbe de Dieu s'étant incarné, s'étant mis en contact avec la nature humaine, l'a guéri de la lèpre de ses anciennes erreurs. Vous voyez, on voit toujours les mêmes explications chez les pères. Le lépreux, la lèpre représente le péché. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc, qui étend sa main et qui le touche, ça représente le prêtre, qui étend la main, encore une fois, je vous ai déjà expliqué, et qui touche l'âme de la personne en lui disant « Je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, allez en paix, vos péchés ont disparu. » Alors, la lèpre, dire le péché, quitte immédiatement cet homme et il fut guéri. Quant à l'impossibilité où était Jésus d'entrer dans les villes, elle signifie qu'il ne s'est pas manifesté à tous. À ceux particulièrement qui recherchent les vaines louanges, les bruyantes acclamations des places publiques et la satisfaction de leur volonté propre, mais bien à ceux qui sortent dehors avec Pierre, qui aime la solitude du désert, pardon, solitude que Jésus recherchait pour prier, pour nourrir le peuple, à ceux afin qu'ils sacrifient les vains plaisirs du monde et tout ce qu'ils possèdent pour dire « Le Seigneur est mon partage ». Donc, il faut savoir s'éloigner des choses du monde, s'éloigner des bruits du monde. C'est pour ça que verset 45 nous dit que notre Seigneur se tenait dehors, dans les lieux déserts. Mais malgré ça, on venait à lui de toutes parts. Donc il faut savoir rentrer dans le sanctuaire de son âme, se quitter, faire quitter notre âme au bruit du monde. Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. C'est pour ça qu'on ne peut pas prier dans le bruit. On ne peut pas prêcher les exercices Saint-Ignace dans des zones bruyantes. C'est pour ça que je suis tellement content d'avoir trouvé ce gîte dans lequel je prêche ici, au nord d'Albi, parce que c'est un moulin en pleine nature, loin de tout. Il n'y a pas une maison dans un rayon d'un kilomètre. On est vraiment dans le silence complet. Il n'y a que les vaches et les oiseaux et la rivière. Et ça permet de prier. La gloire du Seigneur, en bas de la page 11, la gloire du Seigneur se manifeste à ceux dont ils viennent de toutes parts, par des chemins unis, comme par ceux qui sont plus difficiles. Et rien ne peut séparer de la charité de Jésus-Christ. Après avoir opéré ce miracle dans la ville, le Seigneur donc se retire dans le désert pour montrer qu'il préfère la vie tranquille, éloignée des sollicitudes du siècle, et que c'est dans le désir d'en goûter les charmes qu'il consacre ses soins à la guérison des hommes. Importance de la vie contemplative. La vie contemplative est supérieure à la vie active. Attention, jamais oublier ça. Et plus une vie d'un chrétien est active, plus il doit contrebalancer l'action de sa vie par la contemplation. Les grands actifs, les grands saints actifs, étaient très contemplatifs. Pensons à Saint Benoît, à Saint Bernard, par exemple, qui est vraiment le fondateur de la chrétienté dans toute l'Europe. Eh bien, Saint Bernard a une vie active, une influence politique extraordinaire. Et on dit que c'est le fondateur de l'Europe. Bon, je ne crois pas du tout à l'Europe, mais il est un des fondateurs de la chrétienté en Europe. Ça, c'est vrai. Donc, je vous conseille encore une fois, mais bien chauffeur, n'oubliez pas, je vous l'ai souvent dit, mais j'insiste là-dessus, relisez après les cours, ceux qui écoutent ces cours sur Internet, après les avoir écoutés, obligez-vous à relire le polycopier qui correspond au cours. Si Dieu veut, la prochaine fois, donc, nous commencerons pour le prochain cours, donc, qui aura lieu, qui sera mis sur Internet à l'avance, mais qui est le cours pour le 4 décembre, mercredi 4 décembre. Donc, nous commencerons au chapitre 2 de Saint Marc. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Jérôme, Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.